Les frères Karamazov, livre 12, chapitre 10, la plaidoirie. Une arme à deux tranchants. Tout se tut au premier mot du célèbre avocat. La salle entière avait les yeux sur lui. Il débuta avec une simplicité persuasive, mais sans la moindre suffisance. Aucune prétention à l'éloquence et au pathétique. On eût dit un homme causant dans l'intimité d'un cercle sympathique. Il avait une belle voix, forte, agréable, où résonnaient des notes sincères, ingénues. Mais chacun sentit aussitôt que l'orateur pouvait s'élever au véritable pathétique et frapper les cœurs avec une force inconnue. Il s'exprimait peut-être moins correctement qu'Hippolyte Kirillovitch, mais sans longues phrases et avec plus de précision. Une chose déplut aux dames. Il se courbait, surtout au début, non pas pour saluer, mais comme pour s'élancer vers son auditoire. Son long dos semblait pourvu d'une charnière en son milieu et capable de former presque un angle droit. Au début, il parla comme à bâton rompu, sans système, choisissant les faits au hasard, pour en former finalement un tout complet. On aurait pu diviser son discours en deux parties. La première constituant une critique, une réfutation de l'accusation, parfois mordante et sarcastique. Mais dans la seconde, il changea de ton et de procédé, s'éleva soudain jusqu'au pathétique. La salle semblait s'y attendre et frémit d'enthousiasme. Il aborda directement l'affaire en déclarant que, bien que son activité se déroulât à Pétersbourg, il se rendait souvent en province pour y défendre des accusés dont l'innocence lui paraissait certaine ou probable. C'est ce qui m'est arrivé cette fois-ci, expliqua-t-il. Rien qu'en lisant les journaux, j'avais dès le début remarqué une circonstance frappante en faveur de l'accusé. Un fait assez fréquent dans la pratique judiciaire, mais qu'on n'a jamais, je crois, observé à un tel degré, avec des particularités aussi caractéristiques, avait éveillé mon attention. Je ne devrais le mentionner que dans ma péroraison, mais je formulerai ma pensée dès le début, ayant la faiblesse d'aborder le sujet directement, sans masquer les effets ni ménager les impressions. C'est peut-être imprudent de ma part, mais en tout cas sincère. Voici donc comment se formule cette pensée. Une concordance accablante contre l'accusé, des charges dont aucune ne soutient la critique, si on l'examine isolément. Les bruits et les journaux m'avaient confirmé toujours davantage dans cette idée. Lorsque je reçus tout à coup, des parents de l'accusé, la proposition de le défendre. J'acceptai avec empressement et achevai de me convaincre sur place. C'est afin de détruire cette funeste concordance des charges, de démontrer l'inanité de chacune d'elles, considérée isolément, que j'ai accepté de plaider cette cause. Après cet exorde, le défenseur poursuivit. Messieurs les jurés, je suis ici un homme nouveau, accessible à toutes les impressions, dénué de parti pris. L'accusé, de caractère violent, aux passions effrénées, ne m'a pas offensé auparavant, comme de nombreuses personnes dans cette ville, ce qui explique bien des préventions contre lui. Certes, je conviens que l'opinion publique est indignée, à juste titre. L'inculpé est violent, incorrigible. Néanmoins, il était reçu partout. On lui faisait même fête dans la famille de mon éminent contradicteur. Nota bene, il y eut ici dans le public quelques rires, d'ailleurs vite réprimés. Chacun savait que le procureur n'admettait Mitya chez lui que pour complaire à sa femme. Personne des plus respectables, mais fantasque, et aimant parfois tenir tête à son mari, surtout dans les détails. Du reste, Mitya y allait plutôt rarement. Néanmoins, j'ose admettre, poursuivit le défenseur, que même un esprit aussi indépendant et un caractère aussi juste que mon contradicteur a pu concevoir contre mon client une certaine prévention erronée. Oh, c'est bien naturel. Le malheureux ne l'a que trop mérité. Le sens moral, et surtout le sens esthétique, sont parfois inexorables. Certes, l'éloquent réquisitoire nous a présenté une rigoureuse analyse du caractère et des actes de l'accusé. du point de vue strictement critique. Il témoigne d'une profondeur psychologique quant à l'essence de l'affaire qui n'aurait pu être atteinte si mon honorable contradicteur avait nourri un parti pris quelconque contre la personnalité du prévenu. Mais il y a des choses plus funestes en pareil cas qu'un parti pris d'hostilité. C'est, par exemple, lorsque nous sommes obsédés par un besoin de création artistique, d'invention romanesque, surtout avec les riches dons psychologiques qui sont notre apanage. Encore à Pétersbourg, on m'avait prévenu, et d'ailleurs je le savais moi-même, que j'aurais ici comme adversaire un psychologue profond et subtil, depuis longtemps connu comme tel dans le monde judiciaire. Mais la psychologie, messieurs, tout en étant une science remarquable, ressemble à une arme à deux tranchants. En voici un exemple pris au hasard dans le réquisitoire. L'accusé, la nuit, dans le jardin, en s'enfuyant, escalade la palissade, terrasse d'un coup de pilon le domestique, Grigory, qui l'a empoigné par la jambe. Aussitôt après, il saute à terre, s'empresse 5 minutes auprès de sa victime pour savoir s'il l'a tuée ou non. L'accusateur ne veut pour rien au monde croire à la sincérité de l'accusé, affirmant avoir agi dans un sentiment de pitié. « Une telle sensibilité est-elle possible dans un pareil moment? Ce n'est pas naturel. Il a voulu précisément s'assurer si l'unique témoin de son crime vivait encore, prouvant ainsi qu'il l'avait commis, car il ne pouvait sauter dans le jardin pour une autre raison. » Voilà de la psychologie. Appliquons-la à notre tour à l'affaire, mais par l'autre bout, et ce sera tout aussi vraisemblable. L'assassin saute à terre par prudence pour s'assurer si le témoin vit encore. Pourtant, il vient de laisser dans le cabinet de son père, d'après le témoignage de l'accusateur lui-même, une preuve accablante, l'enveloppe déchirée dont la suscription indiquait qu'elle contenait 3 000 roubles. S'il avait emporté l'enveloppe, personne au monde n'aurait su l'existence de cet argent et par conséquent le vol commis par l'accusé. Ce sont les propres termes de l'accusation. Admettons la chose. Voilà bien la subtilité de la psychologie, qui nous attribue dans telles circonstances la férocité et la vigilance de l'aigle, et l'instant d'après, la timidité et l'aveuglement de la taupe. Mais si nous poussons la cruauté et le calcul jusqu'à redescendre, uniquement pour voir si le témoin de notre crime vit encore, pourquoi nous empresser 5 minutes auprès de cette nouvelle victime, au risque d'attirer de nouveaux témoins? Pourquoi étancher avec notre mouchoir le sang qui coule de la blessure, pour que ce mouchoir serve ensuite de pièce à conviction? Dans ce cas, n'eût-il pas mieux valu achever à coups de pilon ce témoin gênant? En même temps, mon client laisse sur place un autre témoin, le pilon dont il s'est emparé chez 2 femmes qui peuvent toujours le reconnaître, attester qu'il l'a pris chez elles. Et il ne l'a pas laissé tomber dans l'allée, oublié par distraction dans son affolement. Non, nous avons rejeté notre arme, retrouvée à 15 pas de la place où fut terrassé Grigory. Pourquoi agir ainsi? Demandera-t-on. C'est le remords d'avoir tué le vieux domestique. C'est lui qui nous a fait rejeter avec une malédiction l'instrument fatal. Il n'y a pas d'autre explication. Si mon client pouvait éprouver du regret de ce meurtre, c'est certainement parce qu'il était innocent de celui de son père. Loin de s'approcher de la victime par compassion, un parricide n'aurait songé qu'à sauver sa peau, au lieu de s'empresser autour de lui. Il aurait achevé de lui fracasser le crâne. La pitié et les bons sentiments supposent au préalable une conscience pure. Voilà, messieurs les jurés, une autre sorte de psychologie. C'est à dessein que je recours moi-même à cette science pour démontrer clairement qu'on peut en tirer n'importe quoi. Tout dépend de celui qui opère. Laissez-moi vous parler des excès de la psychologie, messieurs les jurés, et de l'abus qu'on en fait. Ici, on entendit de nouveau dans le public des rires approbateurs. Mais je ne reproduirai pas en entier la plaidoirie, me bornant à en citer les passages essentiels. Chapitre 11. Ni argent, ni vol. Il y eut un passage de la plaidoirie qui surprit tout le monde. Ce fut la négation formelle de l'existence de ces 3 000 roubles fatales, et par conséquent, de la possibilité d'un vol. Messieurs les jurés, ce qui frappe dans cette affaire, tout esprit non prévenu, c'est une particularité des plus caractéristiques. L'accusation de vol, et en même temps l'impossibilité complète d'indiquer matériellement ce qui a été volé. On prétend que 3 000 roubles ont disparu, mais personne ne sait s'ils ont existé réellement. Jugez-en. D'abord, comment avons-nous appris l'existence de ces 3 000 roubles et qui les a vus? Le seul domestique Smerdiakov, qui a déclaré qu'il se trouvait dans une enveloppe avec suscription. Il en a parlé avant le drame, à l'accusé et à son frère, Ivan Fiodorovitch. Madame Zvietiov en fut aussi informée. Mais ces 3 personnes n'ont pas vu l'argent, et une question se pose. Si vraiment il a existé et que Smerdiakov l'ait vu, quand l'a-t-il vu pour la dernière fois? Et si son maître avait retiré cet argent du lit pour le remettre dans la cassette sans le lui dire? Notez que d'après Smerdiakov, il était caché sous le matelas. L'accusé a dû l'en arracher. Or, le lit était intact. Le procès-verbal en fait foi. Comment cela se fait-il? Et surtout, pourquoi les draps fins, mis exprès ce soir-là, n'ont-ils pas été tachés par les mains sanglantes de l'accusé? Mais, dira-t-on, et l'enveloppe sur le plancher? Il vaut la peine d'en parler. Tout à l'heure, j'ai été un peu surpris d'entendre l'éminent accusateur lui-même dire à ce sujet, lorsqu'il signalait l'absurdité de l'hypothèse que Smerdiakov fût l'assassin, « Sans cette enveloppe, si elle n'était pas restée à terre comme une preuve et que le voleur l'eût emportée, personne au monde n'aurait connu son existence et son contenu, et par conséquent, le vol commis par l'accusé. » Ainsi, et de l'aveu même de l'accusation, c'est uniquement ce chiffon de papier déchiré, muni d'une suscription, qui a servi à inculper l'accusé de vol. Sinon, personne n'aurait su qu'il y avait eu vol, et peut-être que l'argent existait. Or, le seul fait que ce chiffon traînait sur le plancher, suffit-il à prouver qu'il contenait de l'argent et qu'on l'a volé? Mais, objecte-t-on, Smerdiakov l'a vu dans l'enveloppe. Quand l'a-t-il vu pour la dernière fois? Voilà ce que je demande. J'ai causé avec Smerdiakov. Il m'a dit l'avoir vu 2 jours avant le drame. Mais pourquoi ne pas supposer, par exemple, que le vieux Fiodor Pavlovitch, enfermé chez lui dans l'attente fiévreuse de sa bien-aimée, aurait, par désœuvrement, sorti et décacheté l'enveloppe? Elle ne me croira peut-être pas, mais quand je lui montrerai une liasse de 30 billets, ça fera plus d'effet, l'eau lui viendra à la bouche. Et il déchire l'enveloppe, en retire l'argent et la jette à terre, sans craindre naturellement de se compromettre. Messieurs les jurés, cette hypothèse n'en vaut-elle pas une autre? Qu'y a-t-il là d'impossible? Mais dans ce cas, l'accusation de vol tombe d'elle-même. Pas d'argent, pas de vol. On prétend que l'enveloppe trouvée à terre prouve l'existence de l'argent. Ne puis-je pas soutenir le contraire et dire qu'elle traînait vide sur le plancher précisément parce que cet argent en avait été retiré au préalable par le maître lui-même? Mais dans ce cas, où est passé l'argent? On ne l'a pas retrouvé lors de la perquisition. D'abord, on en a retrouvé une partie dans sa cassette. Puis il a pu le retirer le matin ou même la veille, en disposer, l'envoyer, changer enfin complètement d'idée, sans juger nécessaire d'en faire part à Smerdiakov. Or, si cette hypothèse est en soi peu vraisemblable, comment peut-on inculper si catégoriquement l'accusé d'assassinat suivi de vol et affirmer qu'il y a eu vol? Nous entrons ainsi dans le domaine du roman. Pour soutenir qu'une chose a été dérobée, il faut désigner cette chose, ou tout au moins prouver irréfutablement qu'elle a existé. Or, personne ne l'a même vue. Récemment, à Pétersbourg, un jeune marchand ambulant de 18 ans entra en plein jour dans la boutique d'un changeur qu'il tua à coups de hache avec une audace extraordinaire, emportant 1 500 roubles. Il fut arrêté 5 heures après. On retrouva sur lui la somme entière, moins 15 roubles déjà dépensés. En outre, le commis de la victime qui s'était absenté indiqua à la police non seulement le montant du vol, mais la valeur et le nombre des billets et des pièces d'or dont se composait la somme. Le tout fut retrouvé en possession de l'assassin, qui fit d'ailleurs des aveux complets. Voilà, messieurs les jurés, ce que j'appelle une preuve. L'argent est là, on peut le toucher, impossible de nier son existence. En est-il de même dans l'affaire qui nous occupe? Pourtant, le sort d'un homme est en jeu. Soit, dira-t-on. Mais il a fait la fête cette même nuit et prodigué l'argent. On a trouvé sur lui 1500 roubles. D'où viennent-ils? Mais précisément, le fait qu'on a retrouvé que 1500 roubles, la moitié de la somme, prouve que cet argent ne provenait peut-être nullement de l'enveloppe. En calculant rigoureusement le temps, l'instruction a établi que l'accusé, après avoir vu les servantes, s'est rendu tout droit chez M. Percotine, puis n'est pas resté seul un instant. Il n'a donc pas pu cacher en ville la moitié des 3000 roubles. L'accusation suppose que l'argent est caché quelque part au village de Maucreuillet. Pourquoi pas dans les caves du château du Dolph? N'est-ce pas une supposition fantasque et romanesque? Et remarquez-le, messieurs les jurés, il suffit d'écarter cette hypothèse pour que l'accusation de vol s'écroule. Car que sont devenus ces 1500 roubles? Par quel prodige ont-ils pu disparaître, s'il est démontré que l'accusé n'est allé nulle part? Et c'est avec de semblables romans que nous sommes prêts à briser une vie humaine. Cependant, dira-t-on, il n'a pas su expliquer la provenance de l'argent trouvé sur lui. D'ailleurs, chacun sait qu'il n'en avait pas auparavant. Mais qui le savait? L'accusé a expliqué clairement d'où venait l'argent, et selon moi, messieurs les jurés, cette explication est des plus vraisemblables et concorde tout à fait avec le caractère de l'accusé. L'accusation tient à son propre roman. Un homme de volonté faible, qui a accepté 3000 roubles de sa fiancée dans des conditions humiliantes, n'a pu, dit-on, en prélever la moitié et la garder dans un sachet. Au contraire, dans l'affirmative, il l'aurait décousu tous les 2 jours pour y prendre 100 roubles, et il ne serait rien resté au bout d'un mois. Vous vous en souvenez, tout ceci a été déclaré d'un ton qui ne souffrait pas d'objection. Mais si les choses s'étaient passées autrement, et que vous ayez créé un autre personnage, c'est bien ce qui est arrivé. On objectera peut-être « Des témoins attestent qu'il a dissipé en une fois au village de Maucreuillet les 3000 roubles prêtés par Mademoiselle Vercotstep. Par conséquent, il n'a pu en prélever la moitié. » Mais qui sont ces témoins? On a déjà vu le crédit qu'on peut leur donner. De plus, un gâteau dans la main d'autrui paraît toujours plus grand qu'il n'est en réalité. Aucun de ces témoins n'a compté les billets. Ils les ont tous évalués à vue d'œil. Le témoin Maximov a bien déclaré que l'accusé avait 20 000 roubles. Vous voyez, messieurs les jurés, comme la psychologie est à double fin. Permettez-moi d'appliquer ici la contrepartie. Nous verrons ce qui en résultera. Un mois avant le drame, 3000 roubles ont été confiés à l'accusé par Mademoiselle Verkhovstev pour les envoyer par la poste, mais on peut se demander si c'est dans des conditions aussi humiliantes qu'on l'a proclamé tout à l'heure. La première déposition de Mademoiselle Verkhovstev à ce sujet était bien différente. La seconde respirait la colère, la vengeance, une haine longtemps dissimulée. Mais le seul fait que le témoin n'a pas dit la vérité lors de sa première version nous donne le droit de conclure qu'il en a été de même dans la seconde. L'accusation a respecté ce roman, j'y mettrai sa réserve. Toutefois, je me permettrai d'observer que si une personne aussi honorable que Mademoiselle Verkhovstev se permet à l'audience de retourner tout à coup sa déposition, dans l'intention évidente de perdre l'accusé, il est évident aussi que ces déclarations sont entachées de partialité. Nous dénierait-on le droit de conclure qu'une femme avide de vengeance a pu exagérer bien des choses, notamment les conditions humiliantes dans lesquelles l'argent fut offert? Au contraire, cette offre dut être faite d'une manière acceptable, surtout pour un homme aussi léger que notre client, qui comptait d'ailleurs recevoir bientôt de son père les 3 000 roubles dus pour règlement de compte. C'était aléatoire, mais sa légèreté même le persuadait qu'il allait obtenir satisfaction et pourrait par conséquent s'acquitter de sa dette envers Mademoiselle Verkhovtsev. Mais l'accusation repousse la version du sachet. Pareils sentiments sont incompatibles avec son caractère. Cependant, vous avez parlé vous-même des 2 abîmes que Karamazov peut contempler à la fois. En effet, sa nature à double face est capable de s'arrêter au milieu de la dissipation la plus effrénée s'il subit une autre influence. Cette autre influence, c'est l'amour, ce nouvel amour qui s'est enflammé en lui comme la poudre, et pour lequel il faut de l'argent, plus encore que pour faire la fête avec cette même bien-aimée. Qu'elle lui dise « Je suis à toi, je ne veux pas de Fiodor Pavlovitch ». Il la saisira, il l'emmènera au loin, à condition d'en avoir les moyens. Ceci passe avant la fête. Karamazov ne peut-il s'en rendre compte? Voilà ce qui le tourmentait. Quoi d'invraisemblable à ce qu'il ait réservé cet argent à tout hasard? Mais le temps passe, Fiodor Pavlovitch ne donne pas à l'accusé les 3 000 roubles. Au contraire, le bruit court qu'il les destine précisément à séduire sa bien-aimée. « Si Fiodor Pavlovitch ne me donne rien, songe-t-il, je passerai pour un voleur aux yeux de Catherine Ivanovna. » Ainsi naît l'idée d'aller déposer devant Catherine Ivanovna ses 1 500 roubles qu'il continue à porter sur lui dans le sachet en disant « Je suis un misérable, mais non un voleur. » Voilà donc une double raison de conserver cet argent comme la prunelle de ses yeux, au lieu de découdre le sachet et d'en prélever un billet après l'autre. Pourquoi refuser à l'accusé le sentiment de l'honneur? Il existe en lui ce sentiment, mal compris peut-être, souvent erroné, soit, mais réel, poussé jusqu'à la passion, il l'a prouvé. Mais la situation se complique. Les tortures de la jalousie atteignent leur paroxysme, et ces 2 questions, toujours les mêmes, obsèdent de plus en plus le cerveau enfiévré de mon client. Si je rembourse Catherine Ivanovna, avec quoi emmènerai-je Grudchenka? S'il s'est enivré durant tout ce mois, s'il a fait des folies et du tapage dans les cabarets, c'est peut-être précisément parce qu'il était rempli d'amertume et qu'il n'avait pas la force de supporter cet état de choses. Ces 2 questions devinrent finalement si irritantes qu'elles le réduisirent au désespoir. Il avait envoyé son frère cadet demander une dernière fois ses 3 000 roubles à son père. Mais, sans attendre la réponse, il fit irruption chez le vieillard et le battit devant témoin. Après cela, il n'avait plus rien à espérer. Le soir même, il se frappe la poitrine, précisément à la place de ce sachet, et jure à son frère qu'il a un moyen d'effacer sa honte, mais qu'il la gardera, car il se sent incapable de recourir à ce moyen, étant trop faible de caractère. Pourquoi l'accusation refuse-t-elle de croire à la déposition d'Alexeï Karamazov, si sincère, si spontanée, si plausible? Pourquoi, au contraire, imposer la version de l'argent caché dans une fissure dans les caves du château du Dolf? Le soir même de la conversation avec son frère, l'accusé écrit cette fatale lettre, base principale de l'inculpation de vol. « Je demanderai de l'argent à tout le monde, et si l'on refuse de m'en donner, je tuerai mon père, et j'en prendrai sous le matelas, dans l'enveloppe ficelée d'une faveur rose, dès qu'Ivan sera parti. » Sur ce, l'accusation de s'exclamer « Voilà le programme complet de l'assassinat. Tout s'est passé comme il l'avait écrit. » Mais d'abord, c'est une lettre d'ivrogne, écrite sous l'empire d'une extrême irritation. Ensuite, il ne parle de l'enveloppe que d'après Smerdiakov, sans l'avoir vue lui-même. Troisièmement, bien que la lettre existe, comment prouver que les faits y correspondent? L'accusé a-t-il trouvé l'enveloppe sous l'oreiller? Contenait-elle même de l'argent? D'ailleurs, est-ce après l'argent que courait l'accusé? Non, il n'a pas couru comme un fou pour voler, mais seulement pour savoir où était cette femme qui lui a fait perdre la tête. Il n'a pas agi d'après un plan prémédité, mais à l'improviste, dans un accès de jalousie furieuse. Oui, mais après le meurtre, il s'est emparé de l'argent. Finalement, a-t-il tué, oui ou non? Je repousse avec indignation l'accusation de vol. Elle n'est possible que si l'on indique exactement l'objet du vol. C'est un axiome. Mais est-il démontré qu'il a tué, même sans voler? Ne serait-ce pas aussi un roman? Chapitre 12. Il n'y a pas eu assassinat. N'oubliez pas, messieurs les jurés, qu'il s'agit de la vie d'un homme. La prudence s'impose. Jusqu'à présent, l'accusation hésitait à admettre la préméditation. Il a fallu pour la convaincre cette fatale lettre d'ivrogne présentée aujourd'hui au tribunal. Tout s'est passé comme il l'avait écrit. Mais je le répète, l'accusé n'a couru chez son père que pour chercher son amie, pour savoir où elle était. C'est un fait irrécusable. S'il l'avait trouvée chez elle, loin d'exécuter ses menaces, il ne serait allé nulle part. Il est venu par hasard, à l'improviste, peut-être sans se rappeler sa lettre. Mais il s'est emparé d'un pilon, lequel, vous vous souvenez, a donné lieu à des considérations psychologiques. Pourtant, il me vient à l'esprit une idée bien simple. Si ce pilon, au lieu de se trouver à sa portée, avait été rangé dans l'armoire, l'accusé, ne le voyant pas, serait parti sans armes, les mains vides, et n'aurait peut-être tué personne. Comment peut-on conclure de cet incident à la préméditation? Oui, mais il a proféré dans les cabarets des menaces de mort contre son père, et 2 jours auparavant, le soir où fut écrite cette lettre d'ivrogne, il était calme et se querella seulement avec un commis, cédant à une habitude invétérée. À cela, je répondrai que s'il avait médité un tel crime d'après un plan arrêté, il aurait sûrement évité cette querelle et ne serait peut-être pas venu au cabaret, car en pareil cas, l'âme recherche le calme et l'isolement, s'efforce de se soustraire à l'attention. Oubliez-moi, si vous pouvez. Et cela, non par calcul seulement, mais par instinct. Messieurs les jurés, la psychologie est une arme à 2 tranchants, et nous savons aussi nous en servir. Quant à ces menaces vociférées durant 1 mois dans les tavernes, on entend bien des enfants, bien des ivrognes en proférer de semblables au cours de querelles, sans que les choses aillent plus loin. Et cette lettre fatale, n'est-elle pas aussi le produit de l'ivresse et de la colère? Le cri du pochard qui menace de faire un malheur? Pourquoi pas? Pourquoi cette lettre est-elle fatale au lieu d'être ridicule? Parce qu'on a trouvé le père de l'accusé assassiné. Parce qu'un témoin a vu dans le jardin l'accusé qui s'enfuyait et a lui-même été battu par lui. Par conséquent, tout s'est passé comme il l'avait écrit. Voilà pourquoi cette lettre n'est pas ridicule, mais fatale. Dieu soit loué, nous voici arrivés au point critique. Puisqu'il était dans le jardin, donc il a tué. Toute l'accusation tient dans ces 2 mots, puisque et donc. Et si ce donc n'était pas fondé malgré les apparences? Oh, je conviens que la concordance des faits, les coïncidences sont assez éloquentes. Pourtant, considérez tous ces faits isolément, sans vous laisser impressionner par leur ensemble. Pourquoi, par exemple, l'accusation refuse-t-elle absolument de croire à la véracité de mon client quand il déclare s'être éloigné de la fenêtre de son père? Rappelez-vous les sarcasmes à l'adresse de la déférence et des sentiments pieux qu'aurait soudain éprouvé l'assassin. Et s'il y avait eu vraiment ici quelque chose de semblable, un sentiment de piété, sinon de déférence? Sans doute ma mère priait alors pour moi, a déclaré l'inculpé à l'instruction, et il s'est enfui dès qu'il eut constaté que Madame Svietlov n'était pas chez son père. Mais il ne pouvait pas le constater par la fenêtre, nous objecte l'accusation. Pourquoi pas? La fenêtre s'est ouverte aux signaux faits par mon client. Fiodor Pavlovitch a pu prononcer une parole, laisser échapper un cri, révélant l'absence de Madame Svietlov. Pourquoi s'en tenir absolument à une hypothèse issue de notre imagination? En réalité, il y a mille possibilités capables d'échapper à l'observation du romancier le plus subtil. Oui, mais Grigori a vu la porte ouverte. Par conséquent, l'accusé est entré sûrement dans la maison. Il a donc tué. Quant à cette porte, messieurs les jurés, voyez-vous, nous n'avons là-dessus que le seul témoignage d'un individu qui se trouvait d'ailleurs dans un tel état que... Mais soit, la porte était ouverte. Admettons que les dénégations de l'accusé soient un mensonge, dicté par un sentiment de défense bien naturel. Admettons qu'il ait pénétré dans la maison. Alors, pourquoi veut-on qu'il ait tué s'il est entré? Il a pu faire irruption, parcourir les chambres, il a bousculé son père, le frappé même, mais après avoir constaté l'absence de Madame Svietlov, il s'est enfui, heureux de ne pas l'avoir trouvée et de s'être épargné un crime. Voilà justement pourquoi, un moment après, il est redescendu vers Grigori, victime de sa fureur. C'est parce qu'il était susceptible d'éprouver un sentiment de pitié et de compassion, qu'il avait échappé à la tentation, parce qu'il ressentait la joie d'un cœur pur. Avec une éloquence saisissante, l'accusation nous dépeint l'état d'esprit de l'inculpé au village de Mokroyé, quand l'amour lui apparut de nouveau, l'appelant à une vie nouvelle, alors qu'il ne lui était plus possible d'aimer, ayant derrière lui le cadavre sanglant de son père, et en perspective le châtiment. Pourtant, le ministre public a admis l'amour en l'expliquant à sa manière, l'ébriété, le répit dont bénéficiait le criminel, etc. Mais n'avez-vous pas créé un nouveau personnage, monsieur le procureur? Je vous le demande à nouveau. Mon client est-il grossier et sans cœur au point d'avoir pu, en un pareil moment, songer à l'amour et au subterfuge de sa défense en ayant vraiment sur la conscience le sang de son père? Non, mille fois non. Sitôt après avoir découvert qu'elle l'aime, l'appelle, lui promet le bonheur, je suis persuadé qu'il aurait éprouvé un besoin impérieux de se suicider et qu'il se fût ôté la vie s'il avait eu derrière lui le cadavre de son père. Oh non, certes, il n'aurait pas oublié où se trouvaient ses pistolets. Je connais l'accusé. La brutale insensibilité qu'on lui attribue est incompatible avec son caractère. Il se serait tué, c'est sûr. Il ne l'a pas fait précisément parce que sa mère priait pour lui et qu'il n'avait pas versé le sang de son père. Durant cette nuit passée à Mokroyé, il s'est tourmenté uniquement à cause du vieillard abattu par lui, suppliant Dieu de le ranimer pour qu'il pût échapper à la mort et lui-même au châtiment. Pourquoi ne pas admettre cette version? Quelle preuve décisive avons-nous que l'accusé ment? Mais on va de nouveau nous opposer le cadavre de son père. Il s'est enfui sans tuer. Alors, qui est l'assassin? Encore un coup, voici toute la logique de l'accusation. Qui a tué, sinon lui? Il n'y a personne à mettre à sa place. Messieurs les jurés, c'est bien cela. Est-il bien vrai qu'on ne trouve personne d'autre? L'accusation a énuméré tous ceux qui étaient ou sont venus dans la maison cette nuit-là. On a trouvé 5 personnes. 3 d'entre elles, j'en conviens, sont entièrement hors de cause. La victime, le vieux Grigori et sa femme. Restent donc Karamazov et Smerdiakov. Monsieur le procureur s'écrit pathétiquement que l'accusé ne désigne Smerdiakov qu'en désespoir de cause, que s'il y avait un 6e personnage, ou même son ombre, mon client, saisi de honte, s'empresserait de le dénoncer. Mais, messieurs les jurés, pourquoi ne pas faire le raisonnement inverse? Il y a 2 individus en présence, l'accusé et Smerdiakov. Ne puis-je pas dire qu'on accuse mon client qu'en désespoir de cause? Et cela uniquement parce qu'on a de parti pris exclu d'avance Smerdiakov de tout soupçon? À vrai dire, Smerdiakov n'est désigné que par l'accusé, ses 2 frères et Madame Svietlov. Mais il y a d'autres témoignages. c'est l'émotion confuse suscitée dans la société par un certain soupçon. On perçoit une vague rumeur, on sent une sorte d'attente. Enfin, le rapprochement des faits, caractéristique même dans son imprécision, en est une nouvelle preuve. D'abord, cette crise d'épilepsie survenue précisément le jour du drame. Crise que l'accusation a dû défendre et justifier de son mieux. Puis, ce brusque suicide de Smerdiakov, la veille du jugement. Ensuite, la déposition non moins inopinée à l'audience du frère de l'accusé, qui avait cru jusqu'alors à sa culpabilité, et apporte tout à coup de l'argent en déclarant que Smerdiakov est l'assassin. Oh, je suis persuadé, comme le parquet, qu'Ivan Fiodorovitch est atteint de fièvre chaude, que sa déposition a pu être une tentative désespérée, conçue dans le délire pour sauver son frère en chargeant le défunt. Néanmoins, le nom de Smerdiakov a été prononcé. On a de nouveau l'impression d'une énigme. On dirait, messieurs les jurés, qu'il y a ici quelque chose d'inexprimé, d'inachevé. Peut-être la lumière se fera-t-elle, mais n'anticipons pas. La cour a décidé tout à l'heure de poursuivre les débats. Je pourrais, en attendant, présenter quelques observations au sujet de la caractéristique de Smerdiakov, tracée avec un talent si subtil par l'accusation. Tout en l'admirant, je ne puis souscrire à ses traits essentiels. J'ai vu Smerdiakov, je lui ai parlé. Il m'a produit une impression tout autre. Il était faible de santé, certes, mais non de caractère. Ce n'est pas du tout l'être faible que s'imagine l'accusation. Surtout, je n'ai pas trouvé en lui de timidité, cette timidité qu'on nous a décrite d'une façon si caractéristique. Nulle ingénuité, une extrême méfiance dissimulée sous les dehors de la naïveté, un esprit capable de beaucoup méditer. Oh, c'est par candeur que l'accusation l'a jugé faible d'esprit. Il m'a produit une impression précise. Je suis parti persuadé d'avoir affaire à un être foncièrement méchant, démesurément ambitieux, vindicatif et envieux. J'ai recueilli certains renseignements. Il détestait son origine, il en avait honte, et rappelait en grinçant des dents qu'il était issu d'une puante. Il se montrait irrespectueux envers le domestique Grigori et sa femme, qui avait pris soin de lui dans son enfance. Maudissant la Russie, il s'en moquait, rêvait de partir pour la France, de devenir français. Il a souvent déclaré, bien avant le crime, qu'il regrettait de ne pouvoir le faire faute de ressources. Je crois qu'il n'aimait que lui, et s'estimait singulièrement haut. Un costume convenable, une chemise propre, des bottes bien cirées, constituaient pour lui toute la culture. Se croyant, il y a des faits à l'appui. Le fils naturel de Fiodor Pavlovitch, il a pu prendre en haine sa situation par rapport aux enfants légitimes de son maître. À eux tous les droits, tout l'héritage, tandis qu'il n'est qu'un cuisinier. Il m'a raconté qu'il avait mis l'argent dans l'enveloppe avec Fiodor Pavlovitch. La destination de cette somme, grâce à laquelle il aurait pu faire son chemin, lui était évidemment odieuse. De plus, il a vu 3 000 roubles en billets neufs. Je le lui ai demandé à dessein. Ne montrez jamais à un être envieux et rempli d'amour-propre une grosse somme à la fois. Or, il voyait pour la première fois une telle somme dans la même main. Cette liasse a pu laisser dans son imagination une impression morbide, sans autre conséquence au début. Mon éminent contradicteur a exposé avec une subtilité remarquable toutes les hypothèses pour et contre la possibilité d'inculper Smerdiakov d'assassinat, en insistant sur cette question. Quel intérêt avait-il à simuler une crise? Oui, mais il n'a pas nécessairement simulé. La crise a pu survenir tout naturellement et passer de même. Le malade revenir à lui. Sans se rétablir, il aura repris connaissance, comme cela arrive chez les épileptiques. « À quel moment Smerdiakov a-t-il commis son crime ?» demande l'accusation. « Il est très facile de l'indiquer. il a pu revenir à lui et se lever après avoir dormi profondément, car les crises sont toujours suivies d'un profond sommeil. Juste au moment où le vieux Grigori, ayant empoigné par la jambe sur la palissade l'accusé qui s'enfuyait, s'écria « Parricide !» Ce cri inaccoutumé, dans le silence et les ténèbres, a pu réveiller Smerdiakov, dont le sommeil était peut-être déjà plus léger. Il se lève et va presque inconsciemment voir ce qui en est. Encore en proie à l'hébétude, son imagination sommeille, mais le voici dans le jardin. Il s'approche des fenêtres éclairées, apprend la terrible nouvelle de la bouche de son maître, évidemment heureux de sa présence. Celui-ci, effrayé, lui raconte tout en détail. Son imagination s'enflamme. Et dans son cerveau troublé, une idée prend corps. Idée terrible, mais séduisante et d'une logique irréfutable. Assassiner. S'emparer des 3000 roubles et tout rejeter ensuite sur le fils du maître. Qui soupçonnera-t-on maintenant? Qui peut-on accuser sinon lui? Les preuves existent. Il était sur les lieux. La cupidité a pu le gagner en même temps que la conscience de l'impunité. Oh, la tentation survient parfois en rafale, surtout chez des assassins qui ne se doutaient pas une minute auparavant qu'ils voulaient tuer. Ainsi, Smerdiakov a pu entrer chez son maître et exécuter son plan. Avec quelle arme? Mais avec la première arme qu'il aura ramassée dans le jardin. Pourquoi? Dans quel dessein? Mais 3000 roubles, c'est une fortune! Oh, je ne me contredis pas. L'argent a pu exister. Peut-être même Smerdiakov seul savait où le trouver chez son maître. Eh bien, et l'enveloppe qui traînait déchirée à terre? Tout à l'heure, en écoutant l'accusation insinuée subtilement à ce sujet que seul un voleur novice, tel que précisément Karamazov, pouvait agir ainsi, tandis que Smerdiakov n'aurait jamais laissé une telle preuve contre lui, tout à l'heure, messieurs les jurés, j'ai reconnu soudain une argumentation des plus familières. Figurez-vous que cette hypothèse sur la façon dont Karamazov avait dû procéder avec l'enveloppe, je l'avais déjà entendu 2 jours auparavant de Smerdiakov lui-même, et cela à ma grande surprise. Il me paraissait, en effet, jouer la naïveté et m'imposer d'avance cette idée pour que j'en tire la même conclusion, comme s'il me la soufflait. N'a-t-il pas agi de même à l'instruction et imposé cette hypothèse à l'éminent représentant du ministère public? Et la femme de Grigori, dira-t-on? Elle a entendu toute la nuit le malade gémir. Soit, mais c'est là un argument bien fragile. Un jour, une dame de ma connaissance se plaignit amèrement d'avoir été réveillée toute la nuit par un roquet. Pourtant, la pauvre bête, comme on l'a pris, n'avait aboyé que 2 ou 3 fois. Et c'est naturel, une personne qui dort entend gémir. Elle se réveille en maugréant pour se rendormir aussitôt. 2 heures après, nouveau gémissement, nouveau réveil suivi de sommeil. Et encore 2 heures plus tard, 3 fois en tout. Le matin, le dormeur se lève en se plaignant d'avoir été réveillé toute la nuit par des gémissements continuels. Il doit nécessairement en avoir l'impression. Les intervalles de 2 heures durant lesquelles il a dormi lui échappent. Seules les minutes de veille lui reviennent à l'esprit. Il s'imagine qu'on l'a réveillé toute la nuit. « Mais pourquoi, s'exclame l'accusation, Smerdiakov n'a-t-il pas avoué dans le billet écrit avant de mourir ?»« Sa conscience n'est pas allée jusque-là. » »« Permettez, la conscience, c'est déjà le repentir. Peut-être le suicidé n'éprouvait-il pas de repentir, mais seulement du désespoir. Ce sont 2 choses tout à fait différentes. Le désespoir peut être méchant et irréconciliable, et le suicidé, au moment d'en finir, pouvait détester plus que jamais ceux dont il avait été jaloux toute sa vie. Messieurs les jurés, prenez garde de commettre une erreur judiciaire. Qu'y a-t-il d'invraisemblable dans tout ce que je vous ai exposé? Trouvez une erreur dans ma thèse. Trouvez-y une impossibilité, une absurdité. Mais si mes conjectures sont tant soit peu vraisemblables, soyez prudents. je le jure, par ce qu'il y a de plus sacré, je crois absolument à la version du crime que je viens de vous présenter. Ce qui me trouble surtout et me met hors de moi, c'est la pensée que, parmi la masse de faits accumulés par l'accusation contre le prévenu, il n'y en a pas un seul tant soit peu exact et irrécusable. Oui, certes, l'ensemble est terrible, ce sang qui dégoutte des mains dont le linge est imprégné, cette nuit obscure où retentit le cri de parricide, celui qui l'a poussé, tombant, la tête fracassée, puis cette masse de paroles, de dépositions, de gestes, de cris. Oh, tout cela peut fausser une conviction, mais non pas la vôtre, messieurs les jurés. Souvenez-vous qu'il vous a été donné un pouvoir illimité de lier et de délier. Mais plus ce pouvoir est grand, plus l'usage en est redoutable. Je maintiens absolument tout ce que je viens de dire. Mais soit, je conviens pour un instant avec l'accusation que mon malheureux client a souillé ses mains du sang de son père. Ce n'est qu'une supposition, encore un coup, je ne doute pas une minute de son innocence. Pourtant, écoutez-moi, même dans cette hypothèse, j'ai encore quelque chose à vous dire, car je pressens dans vos cœurs un violent combat. Pardonnez-moi cette allusion, messieurs les jurés, je veux être véridique et sincère, jusqu'au bout. Soyons tous sincères. À ce moment, le défenseur fut interrompu par d'assez vifs applaudissements. En effet, il prononça les dernières paroles d'une voix si émue que tout le monde sentit que peut-être il avait vraiment quelque chose à dire et quelque chose de capital. Le président menaça de faire évacuer la salle si pareille manifestation se reproduisait. Il se tut, et Fetioukovitch reprit sa plaidoirie d'une voix pénétrée, tout à fait changée. Chapitre 13. Un sophiste.
Ce n'est pas seulement l'ensemble des faits qui accable mon client, messieurs les jurés. Non, ce qui l'accable, en réalité, c'est le seul fait qu'on a trouvé son père assassiné. S'il s'agissait d'un simple meurtre, étant donné le doute qui plane sur cette affaire, sur chacun des faits considérés isolément, vous écarteriez l'accusation. Vous hésiteriez tout au moins à condamner un homme uniquement à cause d'une prévention. Hélas, trop justifiée. Mais nous sommes en présence d'un parricide. Cela en impose au point de fortifier la fragilité même des chefs d'accusation, dans l'esprit le moins prévenu. Comment acquitter un tel accusé? S'il était coupable et qu'il échappe au châtiment, voilà le sentiment instinctif de chacun. Oui, c'est une chose terrible de verser le sang de son père, le sang de celui qui vous a engendré, aimé, le sang de celui qui a prodigué sa vie pour vous, qui s'est affligé de vos maladies enfantines, qui a souffert pour que vous soyez heureux et n'a vécu que de vos joies et de vos succès. Oh, le meurtre d'un tel père, on ne peut même pas l'imaginer. Messieurs les jurés, qu'est-ce qu'un père véritable? Quelle majesté, quelle idée grandiose recèle ce nom? Nous venons d'indiquer en partie ce qu'il doit être. Dans cette affaire si douloureuse, le défunt, Fiodor Pavlovitch Karamazov, n'avait rien d'un père, tel que notre cœur vient de le définir. Car hélas, certains pères sont de vraies calamités. Examinons les choses de plus près. Nous ne devons reculer devant rien, messieurs les jurés, vu la gravité de la décision à prendre. Nous devons surtout ne pas avoir peur maintenant, ni écarter certaines idées, tels que des enfants ou des femmes craintives, suivant l'heureuse expression de l'éminent représentant du ministère public. Au cours de son ardent réquisitoire, mon honorable adversaire s'est exclamé à plusieurs reprises « Non, je n'abandonnerai à personne la défense de l'inculpé. Je suis à la fois son accusateur et son avocat. » Pourtant, il a oublié de mentionner que si ce redoutable accusé a gardé 23 ans une profonde reconnaissance pour une livre de noisettes, la seule gâterie qu'il ait jamais eue dans la maison paternelle. Inversement, un tel homme devait se rappeler, durant ses 23 ans, qu'il courait chez son père, nu-pied, dans l'arrière-cour, la culotte retenue par un seul bouton. suivant l'expression d'un homme de cœur, le docteur Herzenstube. « Oh, messieurs les jurés, à quoi bon regarder de près cette calamité, répéter ce que tout le monde connaît? Qu'est-ce que mon client a trouvé en arrivant chez son père? Et pourquoi le représenter comme un être sans cœur, un égoïste, un monstre? Il est impétueux, il est sauvage, violent, voilà pourquoi on le juge maintenant. Mais qui est responsable de sa destinée? À qui la faute, si, avec des penchants vertueux, un cœur sensible et reconnaissant, il a reçu une éducation aussi monstrueuse? A-t-on développé sa raison? Est-il instruit? Quelqu'un lui a-t-il témoigné un peu d'affection dans son enfance? Mon client a grandi à la grâce de Dieu, c'est-à-dire comme une bête sauvage. Peut-être brûlait-il de revoir son père après cette longue séparation. Peut-être, en se rappelant son enfance comme à travers un songe, a-t-il écarté à maintes reprises le fantôme odieux du passé, désirant de toute son âme absoudre et étreindre son père. Et alors? On l'accueille avec des railleries cyniques, de la méfiance, des chicanes au sujet de son héritage. Il n'entend que des propos et des maximes qui soulèvent le cœur. Finalement, il voit son père essayer de lui ravir son ami avec son propre argent. Oh, messieurs les jurés, c'est répugnant, c'est atroce! Et ce vieillard se plaint à tout le monde de l'irrévérence et de la violence de son fils, le noircit dans la société, lui cause du tort, le calomnie, achète ses reconnaissances de dette pour le faire mettre en prison. Messieurs les jurés, les gens en apparence durs, violents, impétueux, tels que mon client, sont bien souvent des cœurs tendres, seulement ils ne le montrent pas. Ne riez pas de mon idée. Monsieur le procureur s'est moqué impitoyablement de mon client en signalant son amour pour Schiller et le sublime. Je ne m'en serais pas moqué à sa place. Oui, ses cœurs. Oh, laissez-moi les défendre. Ils sont rarement et si mal compris. Ses cœurs sont souvent assoiffés de tendresse, de beauté, de justice, précisément parce que, sans qu'ils s'en doutent eux-mêmes, ces sentiments contrastent avec leur propre violence, avec leur propre dureté. Si indomptables qu'ils paraissent, ils sont capables d'aimer jusqu'à la souffrance, d'aimer une femme d'un amour idéal et élevé. Encore un coup, ne riez pas. C'est ce qui arrive le plus souvent aux natures de cette sorte. Seulement, elles ne peuvent pas dissimuler leur impétuosité, parfois grossière. Voilà ce qui frappe, voilà ce qu'on remarque. Alors que l'intérieur demeure ignoré. En réalité, leur passion s'apaise rapidement, et quand ils rencontrent une personne aux sentiments élevés, ces êtres qui semblent grossiers et violents cherchent la régénération, la possibilité de s'amender, de devenir noble, honnête, sublime, si décrié que soit ce mot. J'ai dit tout à l'heure que je respecterais le roman de mon client avec Mademoiselle Verkhovtsev. Néanmoins, on peut parler à mots couverts. Nous avons entendu, non pas une déposition, mais le cri d'une femme qui se venge, et ce n'est pas à elle à lui reprocher sa trahison, car c'est elle qui a trahi. Si elle avait eu le temps de rentrer en elle-même, elle n'aurait pas fait un pareil témoignage. Oh, ne la croyez pas, non. Mon client n'est pas un monstre, comme elle l'a appelé. Le crucifié qui aimait les hommes a dit, avant les angoisses de la passion, « Je suis le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Aucune d'elles ne périra. Ne perdons pas, nous, une âme humaine. » Je demandais « Qu'est-ce qu'un père ?»« C'est un nom noble et précieux, me suis-je écrié. » Mais il faut user loyalement du terme, messieurs les jurés, et je me permets d'appeler les choses par leur nom. Un père tel que la victime, le vieux Karamazov, est indigne de s'appeler ainsi. L'amour filial non justifié est absurde. On ne peut susciter l'amour avec rien. Il n'y a que Dieu qui tire quelque chose du néant. Père, ne contristez point nos enfants, écrit l'apôtre d'un cœur brûlant d'amour. Ce n'est pas pour mon client que je cite ces saintes paroles, je les rappelle pour tous les pères. Qui m'a confié le pouvoir de les instruire? Personne. Mais comme homme, comme citoyen, Je m'adresse à eux. Vivos voco. Nous ne restons pas longtemps sur terre. Nos actions et nos paroles sont souvent mauvaises. Aussi, mettons tous à profit les moments que nous passons ensemble pour nous adresser mutuellement une bonne parole. C'est ce que je fais. Je profite de l'occasion qui m'est offerte. Ce n'est pas pour rien que cette tribune nous a été accordée par une volonté souveraine. Toute la Russie nous entend. Je ne parle pas seulement pour les pères qui sont ici. Je crie à tous, « Père, ne contristez point nos enfants !» Pratiquons d'abord nous-mêmes le précepte du Christ, et alors seulement nous pourrons exiger quelque chose de nos enfants. Sinon, nous ne sommes pas des pères, mais des ennemis pour eux. Ils ne sont pas nos enfants, mais nos ennemis, et cela par notre faute. On se servira envers nous de la même mesure dont vous vous serez servis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Évangile qui le prescrit. Mesurez de la même mesure qui vous est appliquée. Comment accuser nos enfants s'ils nous rendent l'appareil? Dernièrement, en Finlande, une servante fut soupçonnée d'avoir accouché clandestinement. On l'épia et l'on trouva au grenier, dissimulé derrière des briques, sa malle qui contenait le cadavre d'un nouveau-né tué par elle. On y découvrit également les squelettes de deux autres bébés qu'elle avoua avoir tués à leur naissance. Messieurs les jurés, est-ce là une mère? Elle a bien mis au monde ses enfants, mais qui de nous oserait lui appliquer le saint nom de mère? Soyons hardis, messieurs les jurés, soyons même téméraires. Nous devons l'être en ce moment et ne pas craindre certains mots, certaines idées, comme les marchandes de Moscou qui craignent le métal et le soufre. Prouvons, au contraire, que le progrès des dernières années a influé aussi sur notre développement. Et disons franchement, il ne suffit pas d'engendrer pour être père. Il faut encore mériter ce titre. Sans doute, le mot père a une autre signification, d'après laquelle un père, fût-il un monstre, un ennemi juré de ses enfants, restera toujours leur père, par le seul fait qu'il les a engendrés. Mais c'est une signification mystique, pour ainsi dire, qui échappe à l'intelligence, qu'on peut admettre seulement comme article de foi, ainsi que bien des choses incompréhensibles auxquelles la religion ordonne de croire. Mais dans ce cas, cela doit rester hors du domaine de la vie réelle. Dans ce domaine, qui a non seulement ses droits, mais impose de grands devoirs, si nous voulons être humains, chrétiens, enfin, nous sommes tenus d'appliquer seulement des idées justifiées par la raison et l'expérience, passer au creuset de l'analyse, bref, d'agir sensément et non avec extravagance, comme en rêve ou dans le délire, pour ne pas nuire à notre semblable, pour ne pas causer sa perte. Nous ferons alors œuvre de chrétien, et non seulement de mystique, une œuvre raisonnable, vraiment philanthropique. À ce moment, de vifs applaudissements partirent de différents points de la salle. Mais Fetioukovitch fit un geste comme pour supplier de ne pas l'interrompre. Tout se calma aussitôt. L'orateur poursuivit. « Pensez-vous, messieurs les jurés, que de telles questions puissent échapper à nos enfants lorsqu'ils commencent à réfléchir? Non, certes, et nous n'exigerons pas d'eux une abstention impossible. La vue d'un père indigne, surtout comparé à ceux des autres enfants, ses condisciples, inspire malgré lui à un jeune homme des questions douloureuses. On lui répond banalement « C'est lui qui t'a engendré, tu es son sang, tu dois donc l'aimer. » De plus en plus surpris, le jeune homme se demande malgré lui « Est-ce qu'il m'aimait lorsqu'il m'a engendré? Il ne me connaissait pas, il ignorait même mon sexe, à cette minute de passion où il était peut-être échauffé par le vin. » Et il ne m'a transmis qu'un penchant à la boisson. Voilà tous ses bienfaits. Pourquoi dois-je l'aimer? Pour le seul fait de m'avoir engendré, lui qui ne m'a jamais aimé? Oh, ces questions vous semblent peut-être grossières, cruelles, mais n'exigez pas d'un jeune esprit une abstention impossible. Chassez le naturel par la porte, il rentre par la fenêtre. Mais surtout, ne craignons pas le métal et le soufre, et résolvons la question comme le prescrivent la raison et l'humanité, et non les idées mystiques.
Comment la résoudre?
Eh bien, que le fils vienne demander sérieusement à son père.
« Père, dis-moi pourquoi je dois t'aimer. Prouve-moi que c'est un devoir. »
Si ce père est capable de lui répondre et de le lui prouver, voilà une véritable famille, normale, qui ne repose pas uniquement sur un préjugé mystique, mais sur des bases rationnelles, rigoureusement humaines. Au contraire, si le père n'apporte aucune preuve, c'en est fait de cette famille. Le père n'en est plus un pour son fils. Celui-ci reçoit la liberté et le droit de le considérer comme un étranger et même un ennemi.
Notre tribune, messieurs les jurés, doit être l'école de la vérité et des idées saines. »
De vifs applaudissements interrompirent l'orateur. Assurément, il n'était pas unanime, mais la moitié de la salle applaudissait, y compris des pères et des mères. Des cris aigus partaient des tribunes occupées par les dames. On gesticulait avec les mouchoirs. Le président se mit à agiter la sonnette de toutes ses forces. Il était visiblement agacé par ce tumulte, mais n'osa faire évacuer la salle, comme il en avait déjà menacé. Même des dignitaires, des vieillards décorés installés derrière le tribunal, applaudissaient l'orateur. De sorte que, le calme rétabli, il se contenta de réitérer sa menace. Fetioukovitch, triomphant et ému, poursuivit son discours.
Messieurs les jurés, vous vous rappelez cette nuit terrible dont on a tant parlé aujourd'hui, où le fils s'introduit par escalade chez son père et se trouva face à face avec l'ennemi qui lui avait donné le jour. J'insiste vivement là-dessus. Ce n'est pas l'argent qui l'attirait. L'accusation de vol est une absurdité, comme je l'ai déjà exposé. Et ce n'est pas pour tuer qu'il força la porte. S'il avait prémédité son crime, il se serait muni à l'avance d'une arme. Mais il a pris le pilon instinctivement, sans savoir pourquoi. Admettons qu'il ait trompé son père avec les signaux et pénétré dans la maison. J'ai déjà dit que je ne crois pas un instant à cette légende. Mais soit, supposons-le une minute. Messieurs les jurés, je vous le jure par ce qu'il y a de plus sacré. Si Karamazov avait eu pour rival un étranger au lieu de son père, après avoir constaté l'absence de cette femme, il se serait retiré précipitamment, sans lui faire de mal. Tout au plus l'aurait-il frappé, bousculé, la seule chose qui lui importait étant de retrouver son ami. Mais il vit son père, son persécuteur dès l'enfance, son ennemi devenu un monstrueux rival. Cela suffit pour qu'une haine irrésistible s'empara de lui, abolissant sa raison. Tous ses griefs lui revinrent à la fois. Ce fut un accès de démence, mais aussi un mouvement de la nature qui vengeait inconsciemment la transgression de ses lois éternelles. Néanmoins, même alors, l'assassin n'a pas tué. Je l'affirme, je le proclame. Il a seulement brandi le pilon dans un geste d'indignation et de dégoût, sans intention de tuer, sans savoir qu'il tuait. S'il n'avait pas eu ce fatal pilon dans les mains, il aurait seulement battu son père, peut-être, mais il ne l'eût pas assassiné. En s'enfuyant, il ignorait si le vieillard abattu par lui était mort. Pareil crime n'en est pas un, ce n'est pas un parricide. Non, le meurtre d'un tel père ne peut être assimilé que par préjugé à un parricide. Mais ce crime a-t-il vraiment été commis? Je vous le demande encore une fois. Messieurs les jurés, nous allons le condamner et il se dira « Ces gens n'ont rien fait pour moi, pour m'élever, m'instruire, me rendre meilleur, faire de moi un homme. Ils m'ont refusé toute assistance et maintenant ils m'envoient au bagne. Me voilà quitte, je ne leur dois rien, ni à personne. Ils sont méchants, cruels, je le serai aussi. » Voilà ce qu'il dira, messieurs les jurés, je le jure. En le déclarant coupable, vous ne ferez que le mettre à l'aise, que soulager sa conscience, et, loin d'éprouver des remords, il maudira le sang versé par lui. En même temps, vous rendez son relèvement impossible, car il demeurera méchant et aveugle jusqu'à la fin de ses jours. Voulez-vous lui infliger le châtiment le plus terrible qu'on puisse imaginer, tout en régénérant son âme à jamais? Si oui, accablez-le de votre clémence,
vous le verrez tressaillir. « Suis-je digne d'une telle faveur, d'un tel amour ?» se dira-t-il. Il y a de la noblesse, messieurs les jurés, dans cette nature sauvage. Il s'inclinera devant votre mansuétude. Il a soif d'un grand acte d'amour. Il s'enflammera. Il ressuscitera définitivement. Certaines âmes sont assez mesquines pour accuser le monde entier. Mais comblez cette âme de miséricorde. Témoignez-lui de l'amour, et elle maudira ses œuvres. Car les germes du bien abondent en elle. Son âme s'épanouira en voyant la mansuétude divine, la bonté et la justice humaine. Il sera saisi de repentir. L'immensité de la dette contractée l'accablera. Il ne dira pas, alors, « Je suis quitte », mais « Je suis coupable devant tous et le plus indigne de tous ». Avec des larmes d'attendrissement, il s'écriera « Les hommes valent mieux que moi, car ils ont voulu me sauver au lieu de me perdre. » Oh, il vous est si facile d'user de clémence, car dans l'absence de preuves décisives, il vous serait trop pénible de rendre un verdict de culpabilité. Mieux vaut acquitter 10 coupables que condamner un innocent. Entendez-vous la grande voix du siècle passé de notre histoire nationale? Est-ce à moi, chétif, de vous rappeler que la justice russe n'a pas uniquement pour but de châtier, mais aussi de relever un être perdu? Que les autres peuples observent la lettre de la loi, et nous, l'esprit et l'essence, pour la régénération des déchus. Et s'il en est ainsi, alors, en avant, Russie! Ne vous effrayez pas avec vos troïkas emportés dont les autres peuples s'écartent avec dégoût. Ce n'est pas une troïka emportée, c'est un char majestueux qui marche solennellement, tranquillement vers le but. Le sort de mon client est entre vos mains, ainsi que les destinées du droit russe. Vous le sauverez, vous le défendrez en vous montrant à la hauteur de votre mission. Chapitre 14. Les Moujiks ont tenu ferme. Ainsi conclut Fetioukovitch. Et l'enthousiasme de ses auditeurs ne connut plus de bornes. Il ne fallait pas songer à le réprimer. Les femmes pleuraient, ainsi que beaucoup d'hommes. Deux dignitaires versèrent même des larmes. Le président se résigna et attendit avant d'agiter sa sonnette. Attenter à un pareil enthousiasme eût été une profanation, s'écrièrent nos dames par la suite. L'orateur lui-même était sincèrement ému. Ce fut à ce moment que notre Hippolyte Kirillovitch se leva pour répliquer. On lui jeta des regards haineux. « Comment, il ose encore répliquer ?» murmuraient les dames. Mais les murmures de toutes les dames du monde, avec son épouse à leur tête, n'auraient pas arrêté le procureur. Il était pâle et tremblait d'émotion. Ses dernières phrases furent même incompréhensibles. Il haletait, articulait mal, s'embrouillait. D'ailleurs, il se ressaisit bientôt. Je ne citerai que quelques phrases de ce second discours. « On nous reproche d'avoir inventé des romans. Mais le défenseur a-t-il fait autre chose ? Il ne manquait que des vers à sa plaidoirie. » Fiodor Pavlovitch, dans l'attente de sa bien-aimée, déchire l'enveloppe et la jette à terre. On cite même ses paroles à cette occasion. N'est-ce pas un poème ? Et où est la preuve qu'il a sorti l'argent ? Qui a entendu ce qu'il disait ? L'imbécile Smerdiakov, transformé en une sorte de héros romantique qui se venge de la société à cause de sa naissance illégitime, n'est-ce pas encore un poème à la Byron? Et le fils, qui ayant fait irruption chez son père, le tue sans le tuer, ce n'est même plus un roman ni un poème, c'est un sphinx proposant des énigmes que lui-même assurément ne peut résoudre. S'il a tué, c'est pour de bon. Comment admettre qu'il ait tué sans être un assassin? Ensuite, on déclare que notre tribune est celle de la vérité et des idées saines, et on y profère cet axiome que le meurtre d'un père n'est qualifié de parricide que par préjugé. Mais si le parricide est un préjugé, et si tout enfant peut demander à son père « Père, pourquoi dois-je t'aimer ? Que deviendront les bases de la société ? Que deviendra la famille ?» Le parricide, voyez-vous, c'est le soufre de la marchande moscovite. Les plus nobles traditions de la justice russe sont dénaturées uniquement pour obtenir l'absolution de ce qui ne peut être absous. comblez-le de clémence !» s'exclame le défenseur. « Le criminel n'en demande pas davantage. On verra demain le résultat. D'ailleurs, n'est-ce pas par une modestie exagérée qu'il demande seulement l'acquittement de l'accusé ? Pourquoi ne pas demander la fondation d'une bourse qui immortaliserait l'exploit du parricide aux yeux de la postérité et de la jeune génération ? On corrige l'évangile et la religion ? Tout ça, c'est du mysticisme. Nous seuls possédons le vrai christianisme, déjà vérifié par l'analyse de la raison et des idées saines. On évoque devant nous une fausse image du Christ. On se servira envers vous de la même mesure que vous vous serez servi. » s'exclame le défenseur, en concluant aussitôt que le Christ a ordonné de mesurer de la même mesure qui nous est appliquée. Voilà ce qu'on proclame à la tribune de vérité. Nous ne lisons l'Évangile qu'à la veille de nos discours pour briller par la connaissance d'une œuvre assez originale, au moyen de laquelle on peut produire un certain effet dans la mesure où c'est nécessaire. Or, le Christ a précisément défendu d'agir ainsi, car c'est ce que fait le monde méchant. Et nous, loin de rendre le mal pour le mal, nous devons tendre la joue et pardonner à ceux qui nous ont offensés. Voilà ce que nous a enseigné notre Dieu, et non pas que c'est un préjugé de défendre aux enfants de tuer leur père. Et ce n'est pas nous qui corrigerons à cette tribune l'Évangile de notre Dieu, que le défenseur daigne seulement appeler « le crucifié qui aimait les hommes », en opposition avec toute la Russie orthodoxe qu'il invoque en proclamant « tuer notre Dieu ». Ici, le président intervint et pria l'orateur de ne pas exagérer, de demeurer dans les limites justes, etc., comme font d'habitude les présidents en pareil cas. La salle était houleuse, le public s'agitait, proférait des exclamations indignées. Fetioukovitch ne répliqua même pas. Il vint seulement, les mains sur le cœur, prononcer d'un ton offensé quelques paroles pleines de dignité. Il effleura de nouveau avec ironie les romans et la psychologie et trouva moyen de décocher ce trait. « Jupiter, tu as tort, puisque tu te fâches !» Ce qui fit rire le public, car Hippolyte Kirillovitch ne ressemblait nullement à Jupiter. Quant à la prétendue accusation de permettre à la jeunesse le parricide, Fetioukovitch déclara avec une grande dignité qu'il n'y répondrait pas. Au sujet de la fausse image du Christ et du fait qu'il n'avait pas daigné l'appeler Dieu, mais seulement le crucifié qui aimait les hommes, ce qui est contraire à l'orthodoxie et ne pouvait se dire à la tribune de vérité, Fetioukovitch parla d'insinuation et donna à entendre qu'en venant ici, il croyait au moins cette tribune à l'abri d'accusations dangereuses pour sa personnalité comme citoyen et fidèle sujet. Mais à ces mots, le président l'arrêta à son tour, et Fetioukovitch, en s'inclinant, termina sa réplique, accompagné par le murmure approbateur de toute la salle. Hippolyte Kirillovitch, de l'avis de nos dames, était confondu pour toujours. La parole fut ensuite donnée à l'accusé. Mitya se leva, mais ne dit pas grand-chose. Il était à bout de force, physique et morale. L'air dégagé et robuste avec lequel il était entré le matin avait presque disparu. Il paraissait avoir traversé dans cette journée une crise décisive qui lui avait appris et fait comprendre quelque chose de très important, qu'il ne saisissait pas auparavant. Sa voix s'était affaiblie, il ne criait plus. On sentait dans ses paroles la résignation et l'accablement de la défaite. « Que puis-je dire, messieurs les jurés ? On va me juger. Je sens la main de Dieu sur moi. C'en est fait du dévoyé. Mais comme si je me confessais à Dieu, à vous aussi je dis « Je n'ai pas versé le sang de mon père. » Je le répète une dernière fois, ce n'est pas moi qui ai tué. J'étais déréglé, mais j'aimais le bien. Constamment j'aspirais à m'amender, et j'ai vécu comme une bête fauve. Merci au procureur. Il a dit sur moi bien des choses que j'ignorais, mais il est faux que j'ai tué mon père. Le procureur s'est trompé. Merci également à mon défenseur. J'ai pleuré en l'écoutant. Mais il est faux que j'ai tué mon père. Il n'aurait pas dû le supposer. Ne croyez pas les médecins. J'ai toute ma raison. Seulement je me sens accablé. Si vous m'épargniez et que vous me laissiez aller, je prierais pour vous. Je deviendrai meilleur, j'en donne ma parole, je la donne devant Dieu. Si vous me condamnez, je briserai moi-même mon épée et j'en baiserai les tronçons. Mais épargnez-moi et ne me privez pas de mon Dieu. Je me connais, je récriminerai. Je suis accablé, messieurs. Épargnez-moi. Il tomba presque à sa place. Sa voix se brisa. La dernière phrase fut à peine articulée. La cour rédigea ensuite les questions à poser et demanda leur conclusion aux parties. Mais j'omets les détails. Enfin, les jurés se retirèrent pour délibérer. Le président était exténué. Aussi ne leur adressa-t-il qu'une brève allocution. « Soyez impartiaux. Ne vous laissez pas influencer par l'éloquence de la défense. Pourtant, pesez votre décision. Rappelez-vous la haute mission dont vous êtes revêtus, etc. » Les jurés s'éloignèrent, l'audience fut suspendue. On put faire un tour, échanger ses impressions, se restaurer au buffet. Il était fort tard, environ 1 heure du matin, mais personne ne s'en alla. Les nerfs tendus empêchaient de songer au repos. Tout le monde attendait avec anxiété le verdict, sauf les dames, qui, dans leur impatience fiévreuse, étaient rassurées. L'acquittement est inévitable. Toutes se préparaient à la minute émouvante de l'enthousiasme général. J'avoue que, parmi les hommes, beaucoup étaient sûrs de l'acquittement. Les uns se réjouissaient, d'autres fronçaient les sourcils, certains baissaient simplement le nez. Ils ne voulaient pas d'acquittement. Fetioukovitch lui-même était certain du succès. On l'entourait, on le félicitait avec complaisance. « Il y a, disait-il dans un groupe, comme on le rapporta par la suite, il y a des fils invisibles qui relient le défenseur au juré. Ils se forment et se pressentent déjà au cours de la plaidoirie. Je les ai sentis, ils existent. Nous aurons gain de cause, soyez tranquilles. » « Que vont dire maintenant nos croquants ? » proféra un gros monsieur grêlé, à l'air renfrogné, propriétaire aux environs, en s'approchant d'un groupe. « Il n'y a pas que des croquants, il y a 4 fonctionnaires. »« Ah oui, les fonctionnaires !» dit un membre du Zemstvo. « Connaissez-vous Nazarev, Pronchor Ivanovitch, ce marchand qui a une médaille ? Il fait partie du jury. » « Eh bien, c'est une des lumières de la corporation. » « Il garde toujours le silence. » « Tant mieux, ce n'est pas au pétersbourgeois à lui faire la leçon. Lui-même en remontrerait à tout Pétersbourg. 12 enfants, pensez !»« Est-il possible qu'on ne la quitte pas ?» criait dans un autre groupe un de nos jeunes fonctionnaires. « Il sera sûrement acquitté !» fit une voix décidée. « Ce serait une honte de ne pas la quitter !» s'exclama le fonctionnaire. « Admettons qu'il ait tué, mais un père comme le sien. Et enfin, il était dans une telle exaltation, il a pu vraiment n'asséner qu'un coup de pilon, et l'autre s'est affaissé. Mais on a eu tort de mêler le domestique à tout ça. Ce n'est qu'un épisode burlesque. À la place du défenseur, j'aurais dit carrément, il a tué, mais il n'est pas coupable, nom d'un chien. » « C'est ce qu'il a fait. Seulement, il n'a pas dit nom d'un chien. »« Mais si, Mikhaïl Semyonitch, il l'a presque dit !» reprit une troisième voix. « Permettez, messieurs, on a acquitté durant le carême une actrice qui avait coupé la gorge à la femme de son amant. »« Oui, mais elle n'est pas allée jusqu'au bout. »« C'est égal, elle avait commencé. » »« Et ce qu'il a dit des enfants, n'est-ce pas admirable ?» « Admirable. Et le couplet sur le mysticisme, hein ?»« Laissez donc le mysticisme, » s'écria un autre. « Songez plutôt à ce qui attend dès demain Hippolyte. Son épouse lui en fera voir de dur à cause de Mitya. »« Elle est ici ?»« Si elle y était, ce serait déjà fait. Elle garde la maison, elle a une rage de dents. » Dans un troisième groupe, Mitya pourrait bien être acquitté. Ce sera du propre. Demain, il saccagera la capitale et ne dessoulera pas de 10 jours. Eh oui, c'est un vrai diable. À propos de diable, on n'a pas pu se passer de lui. Sa place était tout indiquée ici.
Messieurs, l'éloquence est une belle chose, mais on ne peut fracasser la tête d'un père impunément. Sinon, où irions-nous?
Le char, vous vous souvenez?
Oui, il a fait d'un chariot un char.
Demain, le char redeviendra chariot,
dans la mesure où il est nécessaire.
Les gens sont devenus malins. La vérité existe-t-elle encore en Russie, messieurs? Oui ou non?
Mais la sonnette retentit. Les jurés avaient délibéré 1 heure exactement. Un profond silence régna quand le public eut repris place. Je me rappelle l'entrée du jury dans la salle. Enfin, je ne citerai pas les questions par ordre, je les ai oubliées. Je me souviens seulement de la réponse à la première question, la principale. L'accusé a-t-il tué pour voler avec préméditation? J'ai oublié le texte exact. Le président du jury, ce fonctionnaire qui était le plus jeune de tous, laissa tomber d'une voix nette, au milieu d'un silence de mort,
« Oui !»
Puis ce fut la même réponse sur tous les points, sans la moindre circonstance atténuante. Personne ne s'y attendait. Tous comptaient au moins sur l'indulgence du jury. Le silence continuait, comme si l'auditoire eût été pétrifié. Les partisans de la condamnation comme ceux de l'acquittement. Mais ce ne fut que les premières minutes auxquelles succéda un affreux désarroi. Parmi le public masculin, beaucoup étaient enchantés, certains même se frottaient les mains. Les mécontents avaient l'air accablés, haussaient les épaules, chuchotaient comme s'ils ne se rendaient pas encore compte. Mais nos dames, seigneur, je crus qu'elles allaient faire une émeute. D'abord, elles n'en crurent pas leurs oreilles. Soudain, de bruyantes exclamations retentirent. « Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce encore ?» Elles quittaient leur place. Assurément, elles s'imaginaient qu'on pouvait, à l'instant, changer tout ça et recommencer. À ce moment, Mitya se leva tout à coup et s'écria d'une voix déchirante, les bras tendus en avant. « Je le jure devant Dieu et dans l'attente du jugement dernier. Je n'ai pas versé le sang de mon père. » Katia, je te pardonne. Frère, ami, épargnez l'autre. » Il n'acheva pas et sanglota bruyamment, d'une voix qui ne semblait pas la sienne, comme changée, inattendue, venant Dieu sait d'où. Aux tribunes, dans un coin reculé, retentit un cri aigu. C'était Grushenka. Elle avait supplié qu'on la laissât rentrer et était revenue dans la salle avant les plaidoiries. On emmena Mitya. Le prononcé du jugement fut remis au lendemain. On se leva dans un brouhaha, mais je n'écoutais déjà plus. Je me rappelle seulement quelques exclamations sur le perron à la sortie.
« Il ne s'en tirera pas à moins de 20 ans de mine. »«
Au bas mot !»«
Oui, nos croquants ont tenu ferme. »«
Et réglé son compte à notre Mitya. » »